Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 29 octobre 2022. J'ai l'honneur de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Rassemblement d'Iraniens dans tout le pays pour condamner l'attaque terroriste à Shiraz. La croissance du PIB de la France ralentit à 0,2%. Et le gouvernement éthiopien a mis en garde certaines entités occidentales contre des allégations d'atrocités qu'elle a qualifiées d'irresponsables. C'était les principaux titres. En voici le journal. Des Iraniens de tout horizon sont descendus dans les rues du pays ce vendredi 28 octobre pour condamner l'attentat terroriste perpétré contre le sanctuaire du Shah Cheragh, un lieu de culte très vénéré situé dans la ville de Shiraz, dans le sud du pays, dans la province de Fars. Les manifestants se sont rassemblés dans tout l'Iran, y compris dans la capitale Téhéran, après la prière du vendredi. Le président iranien Ebrahim Raisi ainsi qu'un groupe de responsables militaires et civils étaient également présents lors de la marche organisée à Téhéran le vendredi 28 octobre. Ils ont scandé des slogans et brandi des banderoles demandant que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Les manifestants ont scandé des slogans tels que « Abat les États-Unis »,« Abat Israël », »,« Abat Daesh » et ont exprimé leur colère et leur indignation envers les mercenaires à la solde des États-Unis et du régime sioniste. Tout en déclarant leur solidarité et leur unité contre les ennemis et leur complot, les manifestants iraniens ont affiché leur haine et leur dégoût envers les crimes odieux de l'arrogance mondiale et de ses mercenaires. Pour rappel, 15 pèlerins, dont une femme et deux enfants, ont perdu la vie et au moins 40 autres ont été blessés après qu'un terroriste lourdement armé eut attaqué le sanctuaire populaire dans la province Fars. L'incident s'est produit vers 17h45 heure locale, 14h15 GMT, le mercredi 26 octobre, juste avant les prières du soir. Le commandant de la police de la province de Fars a déclaré que le terroriste avait ouvert le feu de manière aveugle sur les pèlerins à l'intérieur du sanctuaire et qu'il avait lui-même été blessé et arrêté par les agents de sécurité. Le terroriste qui a perpétré l'attaque était un ressortissant étranger. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué l'attentat peu après. Les principales agences de renseignement iraniennes ont publié une déclaration commune dans laquelle elles soulignent le rôle majeur des agences de renseignement étrangères, en particulier la CIA, dans l'orchestration des violentes émeutes survenues en Iran ces dernières semaines. Le ministère iranien du renseignement et l'organisation du renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, ont publié cette déclaration le vendredi 28 octobre, détaillant divers aspects des récentes émeutes en Iran. Le suivi continu et précis des renseignements au cours de l'année écoulée, ainsi que les documents acquis lors des récents troubles, révèlent de nombreux exemples et des références indéniables au rôle indiscutable du régime terroriste américain dans la conception, la mise en œuvre et le maintien des troubles. La déclaration met l'accent sur le rôle du régime mafieux américain et de ses alliés dans les récentes émeutes en Iran, en présentant ses faits classés en trois catégories. Avant les troubles, pendant les troubles et après les troubles. La déclaration critique l'exploitation par Washington de la tragédie de la mort de Mahsa Amini pour ses intérêts politiques, alors qu'il a toujours ignoré le crime odieux commis par l'Arabie Saoudite, à savoir le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi ou le meurtre intentionnel de la journaliste Shirin Abu Akla par le régime sioniste. Tout en insistant sur l'authenticité des données présentées, la déclaration souligne que les préparatifs et une grande partie des opérations liées aux récents troubles en Iran ont été mises en œuvre par des services d'espionnage étrangers, par le biais de certains groupes et réseaux qui leur sont liés de différentes manières à l'intérieur du pays. La déclaration ajoute qu'il existe un autre fait important. Dans leurs opérations, les services d'espionnage étrangers ont essayé d'abuser des plateformes existantes et de certains mécontentements dans la société iranienne et de baser autant que possible leurs projets de renseignement sur l'utilisation abusive de ces plateformes. Les éléments de renseignement montrent que la CIA avait conçu un vaste plan avec la coopération des services d'espionnage alliés et des mandataires réactionnaires avant le début des troubles pour déclencher le chaos national dans le but de commettre des crimes contre la grande nation iranienne et l'intégrité territoriale du pays ainsi que de préparer le terrain pour une pression étrangère accrue, ajoute la déclaration. Selon les informations disponibles, la déclaration indique que la CIA a joué le rôle principal tout en coopérant étroitement avec les services d'espionnage du Royaume-Uni, du régime sioniste et de l'Arabie saoudite. Le communiqué fait ensuite référence à certaines des mesures prises par les agences subventionnées pour se préparer aux troubles, comme l'organisation de soi-disant conférences sur les droits de l'homme pour faire paraître le gouvernement iranien inefficace, exploitant chaque incident comme une opportunité. Les agences d'espionnage subventionnées ont organisé des cours dans un certain nombre de pays pour former des individus à la guerre hybride et indirecte, indique le communiqué, notant que les personnages qui ont pris et publié la première photo de Mahsa Amini à l'hôpital, ainsi que la personne qui a incité la famille d'Amini en publiant des photos spécifiques d'elle, avaient reçu une information spéciale dans le cadre de ces cours. Les renseignements iraniens ont également déclaré que les ennemis avaient planifié et mis en œuvre une guerre médiatique mondiale contre l'Iran, en utilisant les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. La déclaration conjointe a noté que Twitter et Instagram ont ignoré leur propre réglementation pour ouvrir la voie à l'intensification de la diffusion de fake news. La déclaration conclut que malgré toutes ces tentatives, les ennemis n'ont atteint aucun de leurs objectifs préétablis, le projet de destruction de l'Iran enregistrant une défaite humiliante. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré qu'un Irak développé, indépendant et fort peut avoir un rôle positif et constructif et contribuer à promouvoir la sécurité dans la région. Dans un message publié le vendredi 28 octobre, le président Raisi a adressé ses félicitations à Mohamed Shia al-Soudani suite à sa nomination post-premier ministre par les législateurs irakiens et à la mise en place d'un nouveau gouvernement dirigé par lui, mettant fin à une impasse d'un an. La République islamique d'Iran a toujours soutenu le processus politique en Irak fondé sur le vote du peuple et ne ménagera aucun effort pour développer ses relations cordiales avec le pays arabe, a ajouté le président iranien. Il a exprimé l'espoir que les liens amicaux entre Téhéran et Bagdad se développent davantage dans tous les domaines sur la base de points communs civilisationnels et culturels profondément ancrés. M. Raisi a réitéré la détermination et la volonté de l'Iran de renforcer la coopération avec l'Irak. Les députés irakiens ont voté jeudi en faveur du cabinet du Premier ministre composé de 21 membres. Ce vote est intervenu une semaine précisément après l'élection par le Parlement d'Abdul Latif Rachid en tant que nouveau président de l'Irak, qui a immédiatement nommé al-Soudani au poste de Premier ministre. Dans un communiqué rendu public, le vendredi matin, le ministère palestinien de la Santé a annoncé qu'un citoyen palestinien avait trouvé la mort sous les balles des militaires israéliens dans le sud de Naplouse. Mardi 25 octobre au matin, un grand nombre de militaires israéliens ont pris d'assaut la ville de Naplouse. Conformément aux chiffres avancés par le ministère palestinien de la Santé, les tirs des forces israéliennes ont provoqué la mort de 6 Palestiniens. À noter que Naplouse est soumise à un siège sévère depuis 2 semaines. C'est dans un tel contexte que des dizaines de véhicules militaires israéliens ont attaqué la ville de Naplouse depuis plusieurs axes le mercredi matin 26 octobre. Selon les données publiées vendredi 28 octobre par l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, la croissance de l'activité économique française a ralenti au troisième trimestre, le PIB n'augmentant que de 0,2% après avoir progressé de 0,5% au printemps. Cette situation intervient alors que la France est aux prises avec la récession économique, l'augmentation du coût de la vie et la hausse de l'inflation en octobre. Avec la hausse des prix de l'énergie dans l'Union européenne, la France fait face à une inflation mensuelle d'1,3%. Les données de l'INSEE montrent que l'inflation s'est encore accélérée pour atteindre 7,1% en France en octobre en raison de la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. À noter qu'il s'agit de la troisième hausse du taux de dépôt en 3 réunions. Et de la deuxième hausse successive de 0,75 points. Jamais dans l'histoire de la BCE, créée en 1998, un resserrement aussi rapide n'avait eu lieu. Cette hausse des taux d'intérêt entraîne une augmentation significative des intérêts hypothécaires. la Banque centrale européenne a lancé un avertissement selon lequel les perspectives économiques de l'Europe se détérioraient. Certains dirigeants européens ont mis en garde contre une hausse des taux d'intérêt par la BCE et ont déclaré qu'une telle mesure plongerait l'Europe dans une profonde récession. Selon eux, les taux d'intérêt élevés constituent un obstacle à l'expansion des entreprises et à la création d'emplois. Les détracteurs de l'action de l'Union européenne visant à couper le gaz russe bon marché après la guerre en Ukraine ont eu l'effet inverse, mais ils préparent le 9e train de sanctions contre la Russie. Le gouvernement éthiopien a mis en garde vendredi 28 octobre certaines entités occidentales contre des allégations d'atrocités qu'elle a qualifiées d'irresponsables. Dans un communiqué, le service de communication du gouvernement éthiopien a condamné ces allégations irresponsables d'atrocités qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme politique sinistre. Le gouvernement éthiopien ne saurait tolérer davantage les mensonges et diffamations répandues contre l'Éthiopie par diverses entités occidentales, souligne le communiqué. Qualifiant ces allégations de honteuses, le gouvernement éthiopien a déclaré que de ces institutions ne faisaient que reproduire la propagande irresponsable des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Le gouvernement éthiopien a en outre noté que la situation l'a forcé à peser ses options et à considérer ses relations avec certains États et entités qui portent des accusations non fondées et politiquement motivées d'une telle gravité contre le pays. Dans le même temps, le gouvernement éthiopien a rappelé son engagement envers les pourparlers de paix en cours convoqués par l'Union africaine pour mettre fin au conflit dans le nord de l'Éthiopie. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Ukraine. Santé 1e Urban US en Roumanie. Pourquoi ? Début octobre, The Intercept rapportait que les États-Unis avaient considérablement accru leur présence en matière de renseignement et de forces spéciales en Ukraine, malgré les promesses répétées que les troupes américaines ne s'impliqueraient pas dans le conflit. Le rapport indique que les États-Unis ont initialement retiré leurs agents de renseignement et d'opérations spéciales quelques jours avant la contre-offensive de la Russie contre l'agression de l'OTAN. Cependant, la thalassocratie belligérante a décidé de renvoyer ses agents en Ukraine ces derniers mois. Bien que cette décision puisse certainement être considérée comme une nouvelle escalade, il semble que Washington soit déterminé à monter encore plus haut en voyant ses forces militaires régulières près de la zone de conflit. En juin, environ 4 700 soldats de la 101e division aéroportée ont été envoyés de leur base d'attache à Fort Campbell, Kentucky, vers des endroits à travers l'Europe occupés par l'OTAN, en particulier dans les régions roumaines proches de la frontière avec l'Ukraine. Le 30 juillet 2022, ces troupes ont mené une démonstration d'assaut aérien à la 57e base aérienne Mihail Koganichano avec la 9e brigade mécanisée des forces armées roumaines. L'événement a été suivi par le général de division Joseph P. Maki et le premier ministre roumain. Les forces américaines sont prêtes à entrer en Ukraine en cas de nouvelles tensions entre Moscou et Kiev ou d'une attaque contre un État membre de l'OTAN, a rapporté CBS News le 21 octobre, citant l'état-major de la 101e Airborne. « Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre carré du sol de l'OTAN. Comme la Russie n'a jamais menacé aucun État membre de l'OTAN, une telle rhétorique ne provoque qu'une escalade inutile avec Moscou. Pour aggraver les choses, la menace que les troupes américaines soient prêtes à entrer en Ukraine est encore plus dangereuse, car le régime de Kiev n'est officiellement pas membre de l'alliance belligérante. Quoi de plus, les ambitions d'adhésion de la junte néo-nazie ont été rejetées à plusieurs reprises au plus haut niveau, y compris par le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. L'armée américaine s'appuie sur des forces telles que la 101e pour déployer ses troupes presque partout dans le monde en quelques jours, voire quelques heures. La 101e est une division d'infanterie légère de l'armée américaine, principalement adaptée aux opérations d'assaut aérien. Sa mission comprend la planification, la coordination et l'exécution d'opérations d'assaut aérien de la taille d'un bataillon pour prendre le contrôle d'un terrain hostile. Compte tenu de la nature de la présence des services de renseignement et des forces spéciales américaines en Ukraine, ainsi que des déclarations des commandants militaires américains, il est clair que les tâches de la 101e Airborne s'inscrivent parfaitement dans le cadre des opérations clandestines. De telles actions ne manqueront pas d'aggraver encore les tensions entre l'OTAN et la Russie, car Moscou ne se retiendra certainement pas au cas où ses troupes seraient prises pour cible.
Bonjour à tous, bienvenue ici sur les plateaux de Presse TV à partir des studios de Téhéran. Aujourd'hui, comme le veut la tradition des débats, un sujet extrêmement chaud puisqu'il s'agit de terrorisme. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque terroriste qui s'est déroulée en Iran, à Shiraz. Le sujet est extrêmement chaud parce que ce n'est pas la première attaque terroriste que l'Iran a dû subir ce mois-ci. En effet, les actualités internationales n'en ont pas parlé, voire ont complètement obscurci la situation, puisque l'Iran, ces derniers mois, et surtout ce dernier mois, a été attaqué sur ses frontières. Et Shiraz n'en est que le résultat, ça n'est que le dernier résultat en date. Comme le veut la tradition, encore une fois, de notre débat, nous avons préparé un reportage qui résume la situation. Tout de suite, le reportage, ensuite, nos invités. Nous revoilà sur le plateau de Presse TV. Donc, le sujet est donc extrêmement chaud, un acte terroriste ayant provoqué énormément de morts et de blessés. Tout de suite, nous accueillons donc nos deux invités. Notre première invitée étant Madame Aïssar Midani, expert des questions internationales. Madame Midani, bonjour à partir de Damas.
Bonjour à vous, bonjour à Monsieur Maître Chami et à toute l'équipe Presse TV, à tous vos téléspectateurs.
Merci Madame Aïssar Midani. Notre deuxième invité étant Monsieur André Chami, Maître André Chami, monsieur, juriste international à partir d'Alsace. Bonjour Maître Chami.
Bonjour, bonjour à vous tous, à toute l'équipe, ainsi qu'à Madame Midani.
Aujourd'hui nous traitons d'un sujet qui s'est passé à l'intérieur des territoires en Iran, à Shiraz, mais pas seulement, parce que ça faisait plusieurs semaines que le gouvernement iranien avait prévenu qu'il y avait des actes terroristes sur le territoire iranien. J'ai envie de mentionner notamment ce qui s'est passé du côté du Kurdistan irakien et donc aux frontières iraniennes, au Baloutchistan également notamment. Et cette fois, c'est arrivé à Shiraz. Pourtant, le gouvernement iranien avait bien prévenu. Madame Aïssar Midani, quelques mots par rapport à cette monstruosité qui est arrivée cette semaine à Shiraz.
En fait, il est clair que c'est un acte terroriste programmé d'avance, en fait, et de l'extérieur, d'autant plus que la personne qui a commis l'acte terroriste est quelqu'un qui est étranger et qui a dû certainement s'introduire en Iran quelques jours avant cet attentat. Je voudrais d'abord aussi présenter toutes mes condoléances au peuple iranien et à toutes les familles des victimes. Et je voudrais souhaiter aussi un prompt rétablissement pour tous les blessés. Ces actes terroristes rappellent ce que la Syrie vit depuis 10 ans, en fait depuis 2011, sous le vocable le printemps arabe, où les Américains et sionistes et tous les pays de l'OTAN ont dépêché des hordes terroristes de 130 à 150 nationalités différentes qui sont venues s'attaquer à la population, qui commettent des crimes et puis détruire l'infrastructure du pays, qui sont venus d'ailleurs en aide à Israël, cette entité fantoche qui usurpe les territoires palestiniens, qui d'ailleurs, en même temps, d'ailleurs, je pense que c'est important de remarquer, en même temps que l'activité grandissante des terroristes, il y a aussi une attaque grandissante, une escalade contre le peuple palestinien. Il y a eu aussi une agression contre, plusieurs agressions contre la Syrie de l'État d'Israël. Donc, en fait, c'est une escalade généralisée, orchestrée par l'américano-sionisme international, je dirais, l'OTAN, et l'État israélien, qui est en difficulté de toutes sortes, hein, aussi bien intérieures qu'extérieures. Donc, ceci vient effectivement s'ajouter à ces faits. L'objectif, c'est de affaiblir ou freiner le front de la résistance. Je voudrais aussi dire quand même où l'axe de la résistance qui aujourd'hui réalise victoire après victoire, hein, aussi bien au niveau des Palestiniens qu'au niveau de l'accord en fait au Liban, en fait concernant les puits gaziers et pétroliers, au niveau de la victoire syrienne qui a empêché effectivement, qui a bloqué le fractionnement du pays et qui a bloqué le plan américain en fait en Syrie. Donc en Irak aussi, les Américains et l'occupant essuient aussi des revers, malgré le fait que on voit à chaque fois qu'il y a une victoire du peuple irakien et un accord, on voit qu'il commence à créer et à fomenter des troubles de différentes sortes, hein, aussi bien par des terroristes qui commettent des attentats, aussi bien par des manifestations provoquées aussi de l'extérieur, comme c'était le cas d'ailleurs en Iran après le décès de Hamza Amini. Donc, on voit qu'ils ont toujours recours à plusieurs manigances et plusieurs manières de faire, tout ceci pour affaiblir tous les pays qui leur résistent et qui lèvent la tête devant leur diktat.
Oui,
et,
en effet, ce n'est qu'un réseau de manigances pour rendre le territoire faible, mais pour ce qui est de l'Iran, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'Iran subit depuis 40 ans en fait différents coups de pression depuis que la situation, depuis notamment avec lorsque l'Iran a remporté la guerre contre les Irakiens alors qu'ils avaient plusieurs pays contre leur propre dos. Mais ce qui est le plus choquant, monsieur André Chami, c'est que ces dernières semaines, nous avons vu des chaînes internationales, parfois respectées au niveau international, voire ce sont des outils parfois qui ont été seulement créés pour s'en prendre directement à l'image iranienne, des chaînes qui s'adressent directement à des Iraniens qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe au niveau des frontières et qui donc se laissent berner plus ou moins, j'ai envie de dire, par l'actualité internationale en disant que ce n'est pas possible que le mensonge soit aussi gros. Il y a forcément une vérité derrière. Monsieur André Chami, vous êtes un juriste international. Vous avez vu ces choses arriver parce que, contrairement à l'Iran, l'actualité internationale de tous les bords sont visibles à partir des chaînes européennes. Qu'est-ce que vous, en tant que juriste, vous avez envie de dire concernant ce genre d'attaque et cette attaque surtout sur l'image iranienne et sur même ce que peut dire la police? Parce qu'on rappelle qu'il y a environ une vingtaine de policiers qui sont morts dans les rues iraniennes, qui sont morts pour défendre parfois la sécurité des gens. Et pourtant, les Iraniens, grâce ou à cause de ces médias, ont une vision extrêmement différente de ce qui s'est réellement passé.
Vous savez, l'Iran est en guerre, mais c'est une guerre qui ne porte pas son nom. L'Iran est en guerre contre les organisations terroristes, et ce, ça dure depuis des années, ce n'est pas d'hier. Alors parfois, à chaque fois, ça prend une autre forme, mais en réalité, le projet contre l'Iran est unique. C'est l'impérialisme américain qui veut s'en prendre à la seule révolution qui a pu faire face depuis sa naissance jusqu'à présent à ces multiples attaques, à ces multiples agressions, mais surtout à cet ensemble, à cette panoplie de sanctions qui est prise à l'encontre notamment du peuple iranien et des autorités iraniennes. À tel point qu'aujourd'hui, il se trouve un petit peu désarmé. D'ailleurs, au cours des derniers mois, et ce n'est pas qu'au cours des derniers mois particulièrement, mais les derniers mois ont été, si j'ose dire, riches de tentatives d'attaque contre le territoire iranien, et à chaque fois la sécurité iranienne a été au rendez-vous et a pu démanteler un certain nombre de cellules terroristes qui
pas seulement monsieur André Chamier, est-ce que vous avez vu les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui ont été également données par des chaînes internationales comme comment créer un cocktail Molotov, des musiques de guerre comme ont été employées par Daesh sur les territoires européens pour faire venir les musulmans en Irak et en Syrie. Est-ce que vous les avez vues, ces vidéos et ces informations-là?
Mais l'idée de créer la déstabilisation ou l'instabilité en Iran, elle est évidente, puisque de toute façon, cela dure depuis des années. Aujourd'hui, on essaye de faire en quelque sorte le printemps iranien pour essayer de déstabiliser. D'ailleurs, il y a eu des déclarations qui ont été claires et rapportées, qui consistent à dire qu'il faudra syrianiser la situation en Iran. Ça a été clairement dit, il suffit de regarder les différentes déclarations, y compris de ce qu'on appelle les dissidents iraniens, c'est-à-dire ils sont en quelque sorte les relais de l'impérialisme américain pour sacrifier ce pays au profit du projet américain. C'est aussi simple que cela. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des multiples attaques. Il y a les attaques contre les scientifiques, il y a les attaques contre la sécurité iranienne, mais il y a également les attaques contre les hauts gradés de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution, à commencer par le général Soleimani, mais il y a également contre les intérêts iraniens, et on profite à chaque fois d'un prétexte. Là, par exemple, le prétexte du blocage sur le nucléaire iranien, on a cru à un moment donné qu'on allait aboutir, puis là, d'un seul coup, on ressort la panoplie de sanctions. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même rengaine, déstabilisé jusqu'à ce qu'on croit que l'Iran va craquer. Mais l'Iran n'est pas un pays faible, ce n'est pas un pays qui est démuni des moyens pour riposter, en tout cas pour faire face aux agressions. Ce n'est pas la première vague, si j'ose dire, d'agressions. Et malheureusement, pour le peuple iranien, pour les amis iraniens, ça continuera jusqu'à ce qu'on considère définitivement que l'Iran est sorti d'affaire et ce pays ne pourra plus faire l'objet d'une quelconque attaque. Mais en tout cas, ça se terminera, à mon sens, le jour où les Américains auront cessé d'avoir des projets. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous sommes dans une guerre d'usure pour savoir qui va craquer le premier. Et cette généralisation des attaques contre l'ensemble des pays qui font face à l'impérialisme américain, vous avez les Chinois, vous avez les Russes, vous avez les Iraniens, vous avez les Syriens, mais vous avez également les Vénézuéliens et vous avez d'autres pays en Amérique latine. Tous ces pays-là font partie, moi j'appellerais ça, d'un front volontaire ou involontaire de la résistance contre les projets américains. Et à mon sens, au bout, ils finiront par gagner, mais pendant ce temps-là, qui va payer le prix? Ben évidemment, c'est la population. Aujourd'hui, la tentative...
Oui, ce sont des femmes, des enfants, des pères, des mères, des oncles, des grands-pères, c'est celle-là. Là, on ne parle pas de soldats préparés psychologiquement ou physiquement, on parle bien du peuple. Je dis, Madame Aïssa Midani, qu'est-ce que vous envisagez? Vous connaissez également l'Europe, même si vous êtes basée à Damas, Madame Midani, vous savez comment traite l'information en Europe. Si un pays avait traité une attaque terroriste ou que des gens s'en étaient attaqués aux territoires européens, comment l'information aurait été traitée en Europe? C'est là la question. Comment les politiciens auraient parlé, auraient-ils sanctionné un gouvernement de protéger son territoire et sa souveraineté?
En effet, en Europe, il suffit qu'il y ait une personne qui soit morte ou qui soit tuée par un attentat terroriste, les États et les structures internationales s'indignent. Il y en a partout dans la presse, et puis il parle de sanctionner les coupables et puis de ceux qui sont derrière. Par contre, quand il s'agit de pays qui sont contre le diktat américain, et disons-le, en fait, c'est une situation, ces deux poids, deux mesures sont totalement annexés à une situation politique et à une position politique. C'est à partir du moment où c'est un pays du tiers-monde, où c'est un pays qui s'oppose à la volonté et au diktat américain, non seulement on va jusqu'à pratiquement incriminer le pays lui-même, et la victime devient le coupable. D'ailleurs, on voit bien comment la question palestinienne est traitée, comment les Palestiniens aussi, quand ils se rebellent, sont traités pratiquement par les médias occidentaux. Ils sont pratiquement considérés comme coupables d'avoir provoqué, en fait, la colère israélienne, alors que les Israéliens sont là systématiquement à agresser la population, à agresser tout le monde, à arrêter des enfants, à tuer des enfants. D'ailleurs, encore une fois, ce matin, deux jeunes qui ont été tués aussi dans le sud de Naplouse, ajoutés à ceux qui ont été tués hier à bout portant par balle. Donc, en fait, c'est la loi... je dirais, de la justice, entre beaucoup de guillemets, et l'injustice occidentale, qui fait qu'il y a ces deux poids, deux mesures. Bon, il y a effectivement beaucoup de personnes qui se battent, hein, à l'intérieur comme à l'extérieur, je dirais, au niveau de l'ONU, pour les pousser à être plutôt à voir les mêmes choses avec la même grille de lecture, mais on en est loin, en fait. Là, je peux dire heureusement que l'ONU, en fait, le secrétaire de l'ONU a condamné cet attentat, mais il n'avait rien dit d'abord par rapport aux attentats terroristes sur les frontières pakistanaises, irakiennes et afghanes.
Merci, donc, Madame Minaudi. Pour revenir aux propos, parce que vraiment, je veux dire, ça fait plusieurs semaines quand même que l'Iran subit ça de plein fouet, qu'il y a une montagne, j'ai envie de dire, d'actualité, de réseaux sociaux qui postent pratiquement 100 posts par jour avec des chansons, des vidéos faites d'une manière très professionnelle. Mais ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous connaissez cet expert, Monsieur Mohamed Marandi, il a été interviewé récemment par une chaîne allemande concernant complètement la situation iranienne, pas seulement les réactions terroristes, mais également les revendications du peuple. Est-ce que Maître Chami, est-ce que vous connaissez de réputation M. Mohamed Marandi, donc un universitaire et analyste politique iranien, un des conseillers notamment dans les négociations nucléaires? Il intervient souvent sur des chaînes américaines, mais également du Moyen-Orient. Lui a indiqué que, bien sûr, le peuple en 40 ans de vie a forcément des revendications, mais l'information a été traitée de telle manière que des policiers sont morts, que des tensions énormes sont rentrées. Mais ce que moi j'aimerais souligner, c'est qu'il y a des experts logiques qui essayent de s'exprimer dans la situation pour bien montrer qu'il y a des réactions bien précises. Et ce sont ces réactions bien précises qui ont provoqué ce qui s'est passé en Iran. Et finalement, à cause de ça, la sécurité iranienne n'est plus ce qu'elle était il y a quelques mois. Monsieur Chami, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cet expert ?
Vous savez, des experts dans chaque pays, dans chaque chaîne de télé ici en France, et même je ne parle même pas des réseaux sociaux, il y a un prétendu expert qui vient commenter ce qui se passe dans tel ou tel pays. Il y a eu les experts concernant la Syrie, il y a eu les experts concernant la Cisjordanie, il y a eu les experts par dizaines, pour ne pas dire par centaines, concernant la Russie ou concernant l'Iran. C'est une habitude des médias, c'est-à-dire on va chercher le premier. Si on a besoin de quelqu'un qui soit contre le régime, on va choper parmi les Iraniens ou parmi les pseudo-spécialistes de tel ou tel domaine en géopolitique pour dire « venez faire des déclarations ». Je me rappelle, au début de la guerre en Syrie, j'ai été interviewé par RFI pour parler de cette situation. Et effectivement, quand ils ont vu que je venais avec des arguments, à ce moment-là, j'ai été interdit de chaîne. J'ai été interdit de chaîne. Et à ce moment-là, ils faisaient venir, bien entendu, ceux qui étaient contre le gouvernement syrien, contre le peuple syrien. La question ne se pose pas. La démocratie est une démocratie sélective. Il faut quand même réaliser que l'Occident brille dans ce domaine-là. Je parle de cela.
Peut-on parler vraiment démocratie, monsieur André Chani ?
Il y a d'autres domaines où les chaînes de télé ou les réseaux, évidemment, font du tri sélectif à tel point que maintenant, il y a une vague en France ou en Europe de ceux qui ne sont plus contents de ce qui se passe. Ils parlent carrément de médias corrompus, qui sont inféodés au pouvoir. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas que l'Iran. C'est une situation générale. C'est le rapport des médias par rapport à l'information. Ce rapport-là est une information dirigée, peut-être pas directement par l'État, ce n'est pas Macron qui leur dit, mais évidemment, des directives sont données et ces directives sont dispatchées sur l'ensemble des chaînes. D'ailleurs, un jour, on a fait vraiment l'expérience de comparer systématiquement toutes les chaînes les plus connues, par exemple en France, par rapport au traitement de telle ou telle info. Et c'était toujours à l'identique quand il s'agit d'affaires sensibles. Il n'y a que les faits divers, si j'ose dire, qui échappent à cette règle-là. Mais quand on parle des questions internationales, le traitement est identique. Par exemple, aujourd'hui, vous ne trouverez pas un seul média officiel, en tout cas de grande écoute en France, qui ose s'exprimer en faveur de l'Iran ou en faveur de la Russie ou en faveur de la Syrie. C'est aussi simple que cela.
Madame Aïssa Armidani, vous-même, monsieur André Chani n'a pas parlé de démocratie. Est-ce que seulement ce mot existe réellement dans la vie réelle que... Allô, madame Midani, vous m'entendez?
Oui, je ne vous entends pas là.
Et là, vous m'entendez?
J'entends très, très peu.
Très, très peu? Mais le son vient ou pas?
Oui.
Vous m'entendez?
Oui, de loin.
Ok, je vais essayer de m'exprimer clairement. Monsieur André Chami a parlé de mot démocratie. J'ai envie de dire que c'est une utopie de Hobbes et puis c'est tout. On est plutôt dans une situation de monstre léviathanisme et c'est tout. Qu'en pensez-vous?
Une situation de... Pardon.
Plutôt du style du Léviathan, le contrat du Léviathan décrit par Hobbes. Thomas Hobbes.
Oui, oui. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de démocratie dans l'information occidentale. En fait, comme l'a bien exprimé Maître Chami, effectivement, il y a toujours une ligne directrice monolithique qui empêche effectivement toute opinion différente de transparaître sur les médias. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Press TV a été suspendu, que Russia Today a été suspendu immédiatement de tous les satellites et a été arrêté. Ils ont fermé leur bureau, ils ont dû licencier leurs journalistes. On sait qu'à partir du moment où l'opinion des journalistes ou du média lui-même, elle est différente de la ligne monolithique de l'OTAN et des États-Unis, ces médias sont pratiquement empêchés d'exister. D'ailleurs, je voudrais dire que c'est pareil au niveau des réseaux sociaux. Facebook ferme tout de suite les pages des Palestiniens, il ferme tout de suite les pages des personnes qui aussi... vont à l'encontre de l'opinion dominante que les médias mainstream veulent populariser. C'est pareil pour Twitter, c'est pareil pour WhatsApp, en fait, à moindre degré, mais au niveau des médias, c'est clair que même les journalistes qui, à l'intérieur des chaînes, qui expriment certaines idées, comme l'a bien dit Maître Chami, par exemple, pour l'Iran, pour la Syrie, même pour la Russie aujourd'hui, ils sont tout de suite licenciés. Ils perdent leur poste, en fait. C'est la raison pour laquelle ils font pire, ils font de l'autocensure pour ne pas perdre leur poste. Mais après, quand ils sont licenciés, ils vont ailleurs et ils essayent de créer des médias alternatifs dans lesquels ils disent ce qu'ils pensent et ils disent aussi, ils propagent des... des enquêtes du terrain réel. Et bon, c'est le cas quand même de certains journalistes qui sont très courageux, mais qui risquent aussi beaucoup. Parfois, ils subissent des menaces, ils subissent des agressions, etc.
Merci, Madame Houdani.
C'est un monde. Les médias sont un monde de combat, et c'est un instrument de combat que les Américains et que les Occidentaux utilisent comme tel. C'est une arme, et c'est très important de voir qu'ils utilisent à fond cette arme-là, exactement comme les armes militaires.
En effet, vous l'aurez donc compris, c'est là que se conclut notre débat. Les réseaux sociaux, les médias sont des armes qui tuent. Ce ne sont pas seulement des influences psychologiques. Ça peut tuer, c'est ce qui s'est passé à Shiraz cette semaine. Ce n'est finalement la résultante qu'après de plusieurs semaines, voire années, de réseaux sociaux et de médias qui viennent s'en prendre à l'esprit de l'être humain. Je vous recommande donc la lecture et l'écoute de l'interview qui s'est faite auprès de M. Mohammad Marandi, expert iranien, qui traite des différents sujets qui s'est passé ces dernières semaines en Iran, que ce soit les manifestations du peuple ou que ce soit les attaques terroristes ici en Iran. Moi, je vous dis au revoir, à bientôt. J'espère que cette actualité vous aura aidé d'avoir une autre opinion. À très vite sur Press TV à partir des studios de Téhéran.
Une inflation incontrôlable en indexant les salaires sur les prix en France? Face à la hausse du coût de la vie, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer l'indexation des salaires sur les prix. Une mesure que le gouvernement français rejette de peur de voir se former une spirale inflationniste. Le calcul est vite fait. Entre une inflation annuelle attendue à 5,2% et des revalorisations moyennes qui devraient avoisiner les 3% dans le privé, les salaires des Français ont décroché en 2022. Compte tenu de la situation dégradée des finances publiques, il est légitime de s'interroger sur la capacité de l'État à compenser ad vitam aeternam la perte de pouvoir d'achat de tous les salariés dans un scénario d'inflation durable. Les revendications exprimées lors des récents mouvements sociaux ont mis une pression supplémentaire sur les employeurs réticents à sortir le chéquier. À mesure que l'inflation perdure et se renforce, cet appel à la réindexation des salaires trouve un écho de plus en plus large. Sans grande surprise, 87% des Français y sont favorables, selon un sondage de l'IFOP. Si cette mesure relève à première vue du bon sens en période de hausse généralisée des prix, de nombreux économistes mettent en garde sur ses conséquences potentiellement néfastes. Principale menace ? Le déclenchement d'une boucle prix-salaire dont un pays peine ensuite à s'extirper. Le mécanisme est simple à comprendre. Lorsque les salariés obtiennent des augmentations de salaire conséquentes à hauteur de l'inflation lorsqu'il y a indexation, les entreprises voient leurs coûts de production augmenter. Afin de financer ces revalorisations et préserver leurs marges, elles augmentent leurs prix. L'inflation progresse à nouveau, contraignant les employeurs à accorder des augmentations encore plus importantes, puis à relever de nouveau leurs tarifs et ainsi de suite. L'indexation est logique, mais c'est dangereux. Ça ne met aucune limite à l'inflation, met ainsi en garde Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes. C'est précisément cette crainte d'une spirale inflationniste qui conduit le gouvernement à refuser à ce stade tout mécanisme d'indexation hors SMIC, l'exécutif préférant se contenter d'incitations à augmenter les salaires ou à verser des primes lorsque cela est possible. Les défenseurs de la modération salariale en période de forte inflation se réfèrent régulièrement aux années 1970-1980 pour appuyer leur propre. À l'époque, l'indexation des salaires sur les prix a été tenue directement responsable de la spirale inflationniste qui frappait l'économie tricolore après le choc pétrolier. Face à une situation devenue incontrôlable, le Premier ministre Pierre Mauroy s'était résolu à supprimer l'indexation des salaires en 1982, obtenant finalement le résultat escompté, un ralentissement de l'inflation. À la lumière des enseignements de la crise des années 1980, l'indexation des salaires conduirait donc inexorablement au déclenchement d'une boucle inflationniste durable en période de flambée des prix. Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Certains économistes considèrent que la mise en place d'un tel mécanisme n'entraînerait pas nécessairement ce type de cercle vicieux aujourd'hui. Ou du moins, qu'il ne serait pas d'une ampleur comparable à celui observé il y a 40 ans. C'est un peu une formule magique qu'on agite et après on ne fait rien. On est à peine à 6% d'inflation et on se dit qu'on va arriver à 20 000% comme en Argentine, si on indexe les salaires. On en est très loin, a souligné Thomas Porcher, membre du collectif Les économistes atterrés. Rien de dramatique, en somme. 6,8 ou 10% d'inflation. Quelle différence lorsque les salaires suivent les prix? Ce à quoi les économistes libéraux répondront probablement que cela nuirait tout de même à la compétitivité des produits made in France à l'export et menacerait la survie d'entreprises tricolores. L'économiste et ancien député européen Liam Wangok juge lui aussi que le risque de spirale inflationniste est plus limité aujourd'hui en raison de la situation du marché du travail radicalement différente de celle des années 1970. La crise actuelle n'est au contraire liée qu'à des facteurs exogènes. L'inflation est importée. Les difficultés de recrutement sont certes au plus haut aujourd'hui, mais la France continue de vivre avec le chômage de masse. Si bien que le pouvoir de négociation des salariés n'est probablement pas aussi puissant qu'il y a 40 ans. Dans ces conditions, difficile d'obtenir des augmentations supérieures au niveau de l'inflation. Pour éviter la formation d'une spirale inflationniste tout en protégeant le pouvoir d'achat des salariés les plus vulnérables, certains économistes suggèrent une solution alternative qui consisterait en une indexation des salaires jusqu'à un certain seuil au-delà du SMIC. C'est le cas de Gisabelle Coupé-Soubeyran qui propose de ne pas indexer tous les salaires, en tout cas pas ceux des salariés qui ont un pouvoir de négociation et peuvent facilement s'ajuster, mais ceux des plus modestes, un peu au-dessus du SMIC. S'interroger sur la pertinence d'une indexation des salaires sur les prix revient au fond à se poser la question. Qui doit payer le coût de l'inflation? Le vrai sujet, c'est de savoir comment on répartit le prélèvement sur le revenu national, relève l'économiste spécialiste des politiques sociales Gérard Cornillot. En pratique, poursuit-il, il est possible de ne pas faire porter ce coût sur les actifs en indexant leur salaire, le tout sans prendre le risque de déclencher une spirale inflationniste durable et incontrôlable, mais à la condition qu'on accepte que les profits des entreprises diminuent. L'augmentation des salaires, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante à la formation d'une boucle. La deuxième condition, c'est que les entreprises puissent répercuter leurs coûts sur les prix, résume Eric Geyer. Or, chaque entreprise est dans une situation différente. Plutôt que les salaires, certains économistes et personnalités politiques regardent vers les profits pour expliquer l'emballement des prix. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, pour qui ce n'est pas l'augmentation des salaires qui déclenche l'inflation. C'est une boucle profit-prix. les économistes de la Fondation Copernic, Pierre Khalfa et Jacques Rigodia, assurent eux aussi que l'augmentation des prix est entretenue, non par une boucle prix-salaire, comme voudraient nous le faire croire les gouvernants, mais par une boucle prix-profit. Selon eux, les entreprises ne se contenteraient pas seulement de répercuter la hausse des coûts sur les prix, mais relèveraient encore davantage leurs tarifs pour améliorer leurs marges. Une théorie contestée par Eric Heyer, qui rappelle que le taux de marge des entreprises françaises non financières a globalement baissé depuis un an. L'économiste reconnaît toutefois qu'il a explosé dans certains secteurs, en l'occurrence l'énergie, les services des transports et les services immobiliers. Ce qui sous-entend que certaines entreprises ont effectivement pu profiter du contexte international, mais qu'il s'agit sans doute d'une minorité.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.